Globe Crocker jusqu'à midi sur la première.
Le paradis sans les gens ne vaut pas la peine qu'on y mette les pieds, proverbe syrien. Belle matinée, c'est Globe Crocker, l'émission des voyageurs qui ont changé de vie en chemin. Notre table est toujours ouverte pour les Globe Crocker et ils peuvent y déposer des souvenirs de voyage, leurs objets, leur musique, leurs écritures, leur barda, quoi. Pourvu qu'ils nous emmènent sur les chemins qui les ont bouleversés. La semaine dernière, en 2016, nous mettions nos pas dans ceux de Tito Dupré, un Globe Crocker qui est parti un jour vers l'Est parce qu'on y abîmait le monde. Souvenez-vous, Tito s'était mis à recenser le patrimoine mondial de l'humanité en photographiant de manière étonnante des panneaux photographiques qui permettent à l'observateur de visiter un site historique comme on visite virtuellement un appartement. Aujourd'hui, sur les 30 pays qu'il a traversés en 8 ans, c'est en Syrie que ce voyageur amoureux de l'histoire nous emmène. La Syrie, voilà notre destination à croquer.
11h midi, Benjamin Leupart,
Globe Crocker,
sur la première.
La destination du jour va vous étonner. Elle est, c'est vrai, en ce moment, plus souvent, la une des journaux en raison des conflits, plutôt qu'en première page des catalogues de voyage. On s'arrête en Syrie. Ce qui est un véritable cauchemar pour des milliers de personnes aujourd'hui, était pourtant une véritable destination de rêve il y a quelques années. Notre voyageur l'a parcouru avant la guerre, et il souhaite nous faire prendre conscience de sa beauté afin que nous n'en parlions pas trop vite au passé. La Syrie. Elle représente à elle seule un demi-berceau de l'humanité, l'autre étant la Mésopotamie du Sud, donc l'Irak. C'est tout d'abord de là qu'émergent les premiers villages agricoles du monde. On créa en Syrie le premier alphabet, on y découvrit la première note de musique écrite et on y développa au plus haut point les sciences et l'astronomie. La Syrie compte 6 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les anciennes villes d'Alep, de Damas, de Borsa, le Krak des Chevaliers, les villages antiques du nord du pays, et le site de Palmyre. Palmyre, site archéologique dans une oasis, ancienne ville antique et mythique, à 210 km au nord-est de Damas. Du désert plat surgissent des collines rondes où domine un château arabe du XIIe siècle et à ses pieds, les vestiges de la cité de Zénobie, reine de Palmyre. Ce sont aussi ses trésors perdus, comme le lion de Palmyre, le temple de Baal-Shamin ou celui de Baal, des merveilles détruites par l'État islamique à l'explosif en 2015. La Syrie est une destination passionnante, mais aujourd'hui déchirée par les conflits. Parler de ces trésors perdus dans Globe Crocker, c'est un peu continuer à les faire exister.
Bonjour Tito.
Bonjour Benjamin.
Bonne année.
Ah ben également.
Meilleurs vœux. Et merci de venir faire exister des sites qui en partie ont disparu grâce à votre voyage et à votre travail d'archivage photographique. C'est gentil.
Ben avec grand plaisir, et puis c'est surtout, c'est assez dramatique, jamais j'aurais imaginé, lorsque je suis passé dans ce pays, que moins de 5 ans plus tard, ce serait impossible de s'y rendre.
Tito Dupré, vous êtes notre Globe Crocker de la matinée sur la première. On rappelle que Tito est votre nom de voyageur, qui vous vient de votre enfance.
Oui, mon papa m'a appelé Tito très vite parce que je n'arrivais pas à prononcer mon propre prénom, et donc ça arrive souvent avec les Christophe.
Tito, c'est avec ce nom-là que vous allez parcourir 30 pays en 8 ans. On a parlé l'année et la semaine dernière de l'Éthiopie, où vous avez fait des films institutionnels et documentaires, vous avez fait des photographies panneaux photographiques qu'on a pu parcourir. On rappelle ce que c'est qu'une panneau photographie ?
Mais c'est une image à l'intérieur de laquelle on se trouve, on peut tourner autour de soi, voir à droite, à gauche, mais également le plafond, le sol, on peut zoomer. En fait, on a tout d'un coup une sorte de photographe en soi, on peut cadrer soi-même l'image et donc on a un aspect beaucoup plus global et de l'environnement dans lequel on se trouve.
Et donc pendant ce Globe Crocker d'aujourd'hui, si vous avez un ordinateur à portée de main, une tablette ou un smartphone, gardez-le pas loin, connectez-vous parce qu'on va visiter la Syrie comme ça, en radio et en image avec vous Tito. 30 pays, vous choisissez la Syrie et le Moyen-Orient, pourquoi ?
Parce qu'on est en pleine actualité, parce que c'est la fois passée, on a fait le berceau de l'humanité avec Lucie, l'Éthiopie. Ben là, on est dans le berceau des civilisations.
Vous avez voulu rendre hommage à cette civilisation, à l'humanité. Et nous, on a voulu rendre hommage aux gens avec ce proverbe syrien, le paradis sans les gens ne vaut pas la peine qu'on y mette les pieds.
Effectivement, rien n'est plus humain. C'est un peu facile à dire, mais finalement, c'est le centre de tout cela. Un espace comme le Moyen-Orient, la plus grande question que je me pose encore aujourd'hui à propos de ce voyage au long cours que j'ai fait là-bas, c'est comment est-ce qu'on peut manger aussi bien et finir dans la guerre. Je ne comprends pas. C'était la civilisation culinaire est à un point que, je dirais, rien que d'y penser, j'ai la flore intestinale qui est dans ça me bat, quoi. Je veux dire, c'est merveilleux, le Moyen-Orient, pour se nourrir, et je ne comprends pas la situation aujourd'hui, parce qu'il paraît que quand on a le ventre plein, on est heureux.
Il paraît. Mais alors, c'est un voyage dans le temps aussi que vous nous proposez ce matin dans Globe Crocker, parce que, évidemment, ça remonte à 2006.
Oui, mais pas seulement. En fait, le 2006 dans l'histoire n'a plus aucune espèce d'importance.
Le temps est figé.
Le temps est figé, exactement. Et puis surtout, c'est un lieu où les strates de l'humanité se multiplient. En fait, on se rend sur un tel par exemple, c'est un monticule qui en fait a été créé de manière artificielle par la présence humaine. Et donc, il suffit de creuser dans un tel. Il y a par exemple beaucoup de tels bibliques, surtout en Israël, mais Palmyre a été construite sur un tel. Et vous creusez, vous rentrez dans les siècles. Vous rentrez dans les siècles au fur et à mesure. Et donc, c'est un lieu de rencontre extraordinaire, d'abord par les caravanes, évidemment, le commerce entre l'Orient et l'Occident. C'est un lieu de rencontre des cultures perses, gréco-latines, des nomades locaux, parce qu'il y a la route de l'encens qui passe aussi. Il y a pas seulement, il y a la route de la soie, il y a la route. Enfin, c'est délirant de mélange, de rencontres et de diversité.
Vous allez entrer par le sud dans cette Syrie en 2006. Juste avant ça, vous avez séjourné à Paris justement pour travailler sur la mise en image du site de l'UNESCO. On voit bien les liens qui vous unissent avec l'UNESCO, puis aussi avec vos voyages d'avant en Éthiopie et ailleurs. Vous entrez par une ville qu'on appelle Bosra.
Oui, alors je viens de Jordanie, et Bosra compte en fait un amphithéâtre exceptionnel qui n'a rien à envier au Colisée de Rome, par exemple. Et donc, en se rendant sur le site web cuicui.be, cuicui.be.
C'est la fameuse expérience d'immersion.
Et oui, exactement. En haut à droite, là, vous arrivez sur une page d'accueil avec une série de sites au hasard. Mais si vous allez en haut à droite, vous avez une petite loupe qui vous permet de chercher directement le site dont on a envie. Là, dans ce cas, ça va être Bosra, B-O-S-R-A. On arrive immédiatement sur une image et on se retrouve tout de suite en haut de l'amphithéâtre avec quatre points lumineux, jaunes, bien visibles, qui sont les autres panneaux photographiques. En cliquant dessus, en fait, on voyage à cet endroit-là. Donc là, directement, on passe de la vue globale. On clique dans l'image, on tourne partout autour de soi et on a une compréhension pas seulement de l'espace, mais aussi de la matière, grâce aux pierres, etc., qui vous accueillent.
C'est un style romain.
Oui,
d'architecture.
Là, on est vraiment, c'est la Rome antique qui s'est installée. C'était un lieu de commerce très très important. Ce qui est curieux aujourd'hui quand on s'y rend, c'est que c'est très dépeuplé. C'est devenu en fait, c'est une ancienne ville qui est devenue un village. Et donc, il y a un côté fantomatique assez étonnant. En plus, le jour où j'y étais, là, on voit que c'était très couvert, il pleuvait et j'étais parfaitement seul sur place pour documenter. Et c'est à ce moment-là que j'écoute du Rachmaninov parce que ça met dans une ambiance transmédiatique, on peut de nouveau en parler, et qui permet de se concentrer sur son travail et puis d'être en symbiose avec le lieu et l'espace où on est.
Vous arrivez à Bosra. Bosra avait été choisie il y a longtemps par les Romains comme capitale de la province d'Arabie. Ça montre bien la richesse du lieu. Vous arrivez là en 2006, mais pas n'importe quel jour.
Ça c'est une des images qu'on peut voir. Donc si on tourne autour de soi à partir du haut de l'amphithéâtre, on va trouver un autre point lumineux jaune. Et donc on va aller là. Et là on arrive ici dans une toute petite pièce qui fait 20 mètres carrés. Et cette pièce, c'est là que j'attendais mon bus. Et en fait on regarde trois hommes, dont deux qui regardent la télévision. Et c'est ce jour-là en fait que le verdict de Saddam Hussein tombait à la télévision.
Oui, une ambiance très studieuse dans cette espèce d'intérieur tout vert et puis carrelé.
Sachant que les personnes que vous voyez là sont les seules que j'ai vues dans la ville ce jour-là.
Et ils se laissent photographier ?
Oui, sincèrement, je n'ai jamais eu de souci avec ça nulle part. Il faut dire que le temps de la panophotographie est de quelques minutes. Et puis, les gens voient que vous prenez tout le lieu, pas eux personnellement. Il n'y a pas d'invasion, il n'y a pas de...
C'est étonnant, très doux comme média. Étonnant cette ville vide.
Ah oui, oui, surtout, surtout qu'on arrive ici, qu'on est au bord du désert et puis on est sous la pluie. Enfin, il y a tout, rien n'allait quoi.
Rien n'allait. Dans la suite de Globe Crocker, c'est justement avec ces manipulations de panneaux photographiques qu'on peut suivre sur 3xwqqi.be. Ce sera la suite, on va se balader, on va faire toute une boucle, on va aller jusqu'à Palmyre d'ailleurs, puis à Alep. Ce sera après Reich et Darwin de Chazolles sur l'album Big Sun en 2016.
Globe Crocker sur la première.
Avec vous, Tito Dupré, ce matin dans Globe Crocker, on parcourt la Syrie telle que vous avez pu la voir en 2006, la photographier et la figer une fois pour toutes dans le temps, dans son état d'alors. On est entré en Syrie par Bosra. Ensuite, maintenant, on fait route plein nord pour arriver à Damas. Et on se sert ce matin, une fois n'est pas coutume, d'un outil étonnant. Ce sont vos panneaux photographiques qu'on peut manipuler en direct, d'ailleurs pendant l'émission, sur le site qqi.com.
Vous pouvez...
.be et vous pouvez voir ce dont on est en train de parler. Bref, on fait du transmédia, on a peur de rien. On arrive à Damas, c'est un des sites répertoriés par l'UNESCO. Qu'y a-t-il comme objectif pour vous ?
Bon, ici, ça devient assez compliqué parce que Damas est une ville très labyrinthique. Il y a un patrimoine architectural extraordinaire et surtout, rien que cet exemple-ci, là, quand on arrive sur la première image de Damas sur le site qqi.be, on voit une vue panoramique de l'image. Je me trouve en haut d'un building, donc on a cette poussière qui est dans l'espace et surtout on est devant une ancienne basilique ou cathédrale, ça je ne m'en souviens plus, pardon, qui a été transformée en mosquée et qui est le cœur névralgique de la ville. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ici forcément on est dans une région où plusieurs monothéismes doivent cohabiter et créer un état d'esprit à la fois magique, envoûtant et évidemment l'actualité on la connaît déjà à l'époque. Les choses sont tout à fait séparées, donc les religions sont dans leur coin. Mais il y a à Damas, par exemple, je me souviens très bien d'une chapelle souterraine, pratiquement un tombeau en soi, mais c'était en fait une église clandestine qui date de plusieurs siècles. Entrez là-dedans, vous entrez dans une atmosphère, dans une ambiance qui n'a plus de temps.
On vous suit ce matin dans ce parcours en Syrie et au Moyen-Orient, mais ce parcours fait partie d'un voyage de 8 ans qui vous a emmené de la Belgique à la Chine, on peut dire ça comme ça, même au-delà, l'Indonésie plus tard. Vous dites, dans ce voyage, j'ai toujours eu l'habitude d'entrer justement dans les églises, dans les chapelles, dans les temples, dans les mosquées, pour entendre les gens chanter, prier. Tout n'a pas toujours été facile en Syrie.
Oui, ça c'est là on fait référence à ce qui s'est passé à Alep, et c'est la seule fois que c'est arrivé. Autant j'ai toujours été formidablement accueilli, quelle que soit l'église, la synagogue, la mosquée. Et là, à Alep, effectivement, je suis entré peut-être dans la mauvaise mosquée, hein, parce que c'est un cas tout à fait particulier. Et ce que j'ai toujours aimé, c'est surtout le son dans ces cas-là. Vous rentrez, vous vous mettez au fond, vous ne faites pas semblant que vous faites partie de la communauté. De toute façon, ça se voit tout de suite que vous êtes un étranger. L'hospitalité est quelque chose d'assez basique dans toutes les religions du monde. Donc ça, j'avoue que j'en profite un peu. Je m'installe, j'écoute, je prends l'ambiance rien que pour moi-même. Là, c'est un travail, je dirais, davantage sonore qu'autre chose. Et c'est vrai que ce jour-là, j'ai eu très rapidement des regards pas agressif, mais j'étais pas du tout le bienvenu. Et pour ne pas en arriver à des regards agressifs, je suis simplement parti, quoi.
Puisque vous parlez de son, là, ce qui vous motive pour aller dans ces lieux-là, c'est entendre comment on prie, comment on chante dans les différents lieux de culte. Puisque vous parlez de son, on va essayer de se mettre dans les oreilles le son qui accompagne votre travail lorsque vous mettez ensemble, vous assemblez ces photographies pour en faire ces bulles visuelles qu'on peut observer sur qqi.be. C'est au son de Sergueï Vassilievitch Rachmaninov que vous assemblez ces images. Ça sonne comme ça. Tout de suite. Hein.
Ben c'est ça. Et du coup, j'invite vraiment les gens qui sont sur Internet là pour l'instant et qui regardent les images à se dire que c'est comme ça que je prends les images au moment sur place. Et on est de nouveau dans du transmédia, donc on a à la fois la radio et sur Internet. Et cette musique, en fait, est censée augmenter le degré de civilisation pour moi. C'est-à-dire qu'on a le visuel, mais là, avec le sonore, on arrive, il me semble, dans encore un espace supplémentaire et supérieur qui nous invite toujours à nous-mêmes tendre vers cet idéal humain qui est à la fois de paix, de partage, etc. Ça peut être très mystique ou spirituel, ce que je dis, peu importe, mais je sais que c'est pas à la mode, mais vraiment c'est ce que j'essaie de créer. Donc si on voilà.
Quand on navigue dans une de vos bulles visuelles, que ce soit à Damas ou ailleurs, à Bosra, à Palmyre ou à Alep, effectivement, cette musique transporte et donne envie de se balader, de cadrer soi-même, comme on a déjà pu le dire. Ça, c'est la musique qui accompagne votre travail quand vous assemblez les images. Il y a une musique qui est un petit peu celle qui vient ponctuer la fin de votre aventure, en tout cas en Syrie. C'est une chanson que vous avez vous-même interprétée il y a, oulala, combien de temps ?
Oh, je pense que 20 ans.
Il y a 20 ans, c'est un piano-voix. Vous allez nous parler de la signification de ce piano-voix, c'est Face à la mer.
Il s'installe lentement à sa table. Les pieds nus, bien enfoncés dans le sable. Il installe sa rame de feuilles blanches en coin sûr, période droit de cette planche.
On a envie évidemment d'entendre l'intégralité de cette chanson Face à la mer que vous interprétez pour avoir aussi écrit les paroles, Tito Dupré. C'est Sébastien Porte qui signe la composition musicale. En quoi cette musique accompagne la fin de votre parcours ? Peut-être pas voyage, mais parcours.
Mais la fois passée, on avait écouté le texte de tous les départs. Et ça, je dirais que c'est le texte de tous les retours. C'est une sorte d'épiphanie et c'est très éthéré. C'est-à-dire que moi, je suis mon élément, c'est la terre, évidemment. Je me sens très mal sur l'eau, par exemple. Je ne prends pas les avions. Tous mes déplacements, je les prends par voie terrestre, le plus rarement possible par avion, sauf quand on n'a pas le choix. Ici, c'est tout d'un coup, on rentre dans une sorte d'onirisme que j'essaie de partager, qui est celui du voyage. Et qu'aucun groupe opérateur, aucun voyage rapide ne peut permettre, tout simplement.
On va essayer de faire encore des expériences de panneaux photographiques dans la suite de Globe Rocker, dans cette ambiance entre Rachmaninoff et vous-même avec Sébastien Porte au piano. On se pose If I Ever Was a Child de Wilco en 2016. Encore un peu de musique, puis on reprend la route du désert.
Globe Rocker jusqu'à midi sur la première.
Tito Dupré, on était à Damas avec vous il y a quelques instants dans ce Globe Rocker. On est toujours en Syrie, mais on part vers l'est. Vers le désert, on va où ?
À Kousser Amra.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est un petit fort, mais c'est surtout un point névralgique sur la route du commerce avec la Perse. Et puis vers Damas, qui est quand même un des berceaux de la civilisation, une des villes continuellement habitées depuis 4000 ans quand même. Même chose pour Alep, ce qu'on est en train de détruire aujourd'hui est vivant depuis des millénaires. Et donc le Kousser Amra est un tout petit endroit au milieu du désert où on s'arrêtait pour se restaurer d'une part, pour faire allégeance d'autre part, pour payer sa taxe enfin, et aussi pour
aller... Oui, parce qu'il y avait les caravanes aussi.
C'est un passage vraiment pour les caravanes. Et c'est surtout aussi un endroit où il y avait un hammam. Et ce hammam, donc avec les différentes pièces qui le composent, est décoré d'images païennes pour l'époque. Et donc il y a un côté tout à fait étonnant parce que vous êtes avec des images relatives de nus, de personnes, etc. Ce qui est très important pour témoigner effectivement que ce lieu a rencontré beaucoup de bonne humeur de nombreuses civilisations différentes.
Tito, est-ce que vous avez panneau photographié Kousser Amra ?
Oui, tout à fait. Donc on peut effectivement se rentrer soi-même dans ce hammam. Bon, il n'est pas en fonction, hein, c'est un site archéologique. Pour ça, il faut se rendre sur cuicui.be, cui.be.
On rappelle l'origine de CUI ?
Alors c'est culture unique et intime, et aussi culture universelle et immortelle.
Voilà, donc ça fait cui.be. C'est là qu'on peut retrouver l'ensemble de la galerie de toutes ces photos, panneaux photographies, dans lesquelles on navigue aujourd'hui dans Globe Crocker. On avait déjà navigué dans quelques-unes d'entre elles en Éthiopie l'année dernière. On va vers Kousseramra.
Alors, j'ai surtout préparé Palmyre, je suis désolé.
Alors, imaginons, décrivez-nous alors ce fameux hammam de Kousseramra.
Donc, on rentre dans un tout petit fort, une toute petite pièce, et tout autour d'eux, c'est très sombre, et on doit deviner les restes de peinture qui se trouvent au plafond, sur les murs, et qui sont une sorte de protection peinte pour augmenter le plaisir du hammam quand on a fait une longue route à travers le désert.
C'était votre cas, mais comment vous vous déplaciez dans ce désert ?
Ben là, dans ce cas-ci, je ne sais plus ce que j'ai pris comme transport, probablement un bus qui allait vers Palmyre, je ne sais plus.
Alors justement, nous étions à Damas, on passe par le désert et Kousseramra, et Palmyre est dans l'axe, hein, on continue vers l'est, et on va y aller à Palmyre, puisque vous nous avez préparé la bulle visuelle de Palmyre.
Oui, voilà, donc l'idée était, une fois qu'on est sur le site web, il y a en haut à droite une petite loupe, là il suffit simplement d'écrire Palmyre, P-A-L-M-Y-R-E. Et là, on arrive sur une image. On est en haut d'une petite colonne qui est plus haute que le chamelier avec ses deux chameaux qui nous regardent de manière insistante pour qu'on loue ses services et qu'on continue à voyager dans le site. Alors, Palmyre, c'est très particulier. C'est donc le point le plus oriental de l'Empire romain. C'est très, très grand. Les ruines sont absolument merveilleuses. Et puis
ce qu'on aperçoit là, ce sont ces fameuses colonnes, cette colonnade qui forme un axe rectiligne en plein désert et très très long.
Et très long, effectivement, le Cardo Maximo, qui se rend en plus vers un lieu qui est encore un amphithéâtre, beaucoup moins spectaculaire que celui de Bosra tout à l'heure, néanmoins essentiel. C'est là, par exemple, qu'il y a un an, eh bien, Daesh coupait des têtes, exactement à l'endroit que je vous montre. Donc, si vous baissez avec la souris vers le sol, eh bien, vous voyez exactement le lieu où ces exécutions ont eu lieu il y a pas longtemps. Et c'est exactement là aussi qu'une fois que les Russes ont repris Palmyre il y a quelques mois, ils ont fait un spectacle, un concert, exactement à cet endroit-là. Donc, on est vous voyez sur le sol des pierres monumentales qui sont sorties littéralement du désert. Et c'est très impressionnant parce que ce lieu est à la fois lumière, désert. Et on se demande, mais comment est-ce qu'on a construit ça au milieu de rien?
Et comment on a pu y perpétrer autant de carnages, aussi bien humains qu'architecturaux? On a nos petites habitudes, hein, vous l'avez compris dans Globe Crocker, on aime bien plonger dans l'ambiance de votre voyage, non seulement en images, avec cette expérience en cours actuellement sur cuicui.be, mais aussi avec les écritures de voyage. Vous étiez là-bas et vous écriviez pour Le Vif un article sur Palmyre, ce qu'elle est devenue. On a essayé de le remettre en son, un petit peu avec des sons qui ont accompagné votre voyage. Détruire les sites historiques n'est pas un acte barbare, c'est un acte de pouvoir, inévitablement humain. Horizontal, comme le territoire, est vertical, comme l'empilement de plusieurs couches de civilisation dont on s'empare pour les dominer. Le pouvoir s'assied sur le passé pour écrire l'avenir. Cette seule inconnue qui terrifie vraiment tous les pouvoirs. Alors, l'État islamique reprend le stylet de l'histoire et redessine les frontières. Mais tout se mélange. Celles de civilisations antérieures, celles actuelles héritées des Occidentaux, celles de la modernité. Et qui tout explose. Ensemble, elles sont devenues impossibles à appréhender, comprendre, concilier, croiser, justifier, mêler, bref, à porter. Tabula rasa. Hélas. Tabula rasa, ce sont vos mots, Tito Dupré, vous les écriviez pour relayer auprès du Vif ce qui se passait, ce que vous avez observé. Et à propos de Palmyre, où nous sommes aujourd'hui, pourquoi on entend un bateau ?
Ben là, c'est un hommage, évidemment, avec tous ces migrants que nous accueillons si mal aujourd'hui en Europe, qui ne sont absolument pas le nombre qu'on craint et qui sont là et que moi, en tout cas, j'attends à bras ouverts, simplement bienvenue. De la même manière que j'ai été accueilli sur place à mon tour. Pourquoi ? Ben voilà, on entend un bateau, on vient du désert, parce qu'en fait, il n'y a pas de frontières, parce qu'en fait, il n'y a aucune limite, parce qu'on vit ensemble, parce que nous sommes une seule et même famille et que c'est insupportable ce qui arrive aujourd'hui.
C'est dans cet esprit-là qu'on va continuer votre voyage de 2006 en Syrie. On est à Palmyre avec vos images, on est à Palmyre avec vos sons, vos mots. On va continuer ça juste après Soleil Libre de Simon Dalmas, album Before and After. Encore une histoire du temps qui passe et du temps qu'on arrête. C'était en 2015.
Globe Crocker
sur la première.
Nous sommes en plein désert à Palmyre en Syrie ce matin dans Globe Crocker et nous accompagnons Tito Dupré dans ses souvenirs de voyage, un voyage qui remonte à 2006, au cours duquel, Tito, vous avez panneau photographié des sites qui aujourd'hui ne sont plus observables ou ont beaucoup changé à cause de la guerre en Syrie. On vient d'arriver à Palmyre et on se déplace sur votre site cuicui.be pour justement voir à quoi ça ressemblait avant d'être défiguré par la guerre. Mais là, on est sur une autre photo assez incroyable avec des colonnes qui portent un nom particulier.
Oui, ce sont des tétrapylônes. Donc, on est sur une petite terrasse parfaitement carrée. Et au coin de cette terrasse, il y a chaque fois une colonne qui est elle-même surmontée de quatre colonnes. C'est d'un point de vue architectural, je ne crois pas qu'il y ait d'autres exemples, pas même à Rome, ni nulle part ailleurs dans l'Empire romain. De sorte qu'ici, à mon avis, ceci n'existe que par la créativité des artisans locaux. Et on est ici à la rencontre de deux rues principales qui structurent une ville romaine. Et donc, on voit même, hein, si on zoome dans l'image, on peut aller voir les détails des colonnades, etc. C'est un espace très étonnant parce qu'il est tout à fait ouvert aux quatre vents. On est en même temps dans un espace habité, c'est-à-dire qu'on est dans l'architecture. Moi, à cet endroit-là, j'ai l'impression de comprendre pourquoi l'architecture est le premier des arts. C'est vraiment lui qui est la nature de l'homme. Donc la culture, pour moi, est la nature de l'être humain, dans la mesure où, effectivement, grâce à l'architecture, il s'intègre à la nature. C'est là qu'il trouve son rôle, sa raison d'être, et cette espèce d'équilibre qu'il doit absolument avoir entre être sédentaire et être nomade.
Mais c'est là aussi, c'est dans l'architecture et dans ces colonnades qu'on peut voir que l'homme crée sa propre mémoire, sculpte sa mémoire dans la nature.
Exactement, c'est là qu'il montre, voilà, regardez, j'habite ici, donc respectez cela, et aussi je vais transmettre. La transmission, c'est le propre même de cette liste du patrimoine mondial, c'est de traverser les siècles, de traverser l'espace. C'est un héritage qu'on doit absolument préserver pour les générations futures. À la limite, si on a d'existence propre aujourd'hui, qui est de toute façon transitoire, c'est justement de recevoir pour donner ce qu'on a reçu, et éventuellement de l'améliorer généralement, un tant soit peu. En tout cas, de témoigner.
Ce premier des arts, l'architecture, c'est pas un hasard, vous dites, si c'est par là qu'on commence la destruction.
Mais oui, voilà, et donc c'est le propos de ce texte que j'ai écrit, qu'on a entendu tout à l'heure. Ben oui, en détruisant l'architecture, on détruit la culture. En détruisant la culture, on détruit l'humanité même de l'être que nous sommes. Cette humanité retourne en fait à l'état de nature. Et donc on sort de la logique de l'éducation. L'éducation, c'est sortir de l'état de nature. Comment est-ce qu'on sort de l'état de nature? Eh bien, par la langue, par l'écrit, et puis surtout par l'environnement dans lequel on vit.
Grâce à vos photos, vos panneaux photos, on voit les choses. Donc ici, pour les gens qui ne seraient pas connectés, il y a des colonnades qui sont très jaunes, presque ocre, un ciel bleu quasiment uniforme, un soleil de plomb. Vous y étiez à quel moment de l'année?
Oh, ben là, on va regarder tout de suite la date. C'était en novembre, tiens.
En novembre, il y avait beaucoup de visiteurs dans cette zone-là?
Non. Je ne pense pas en avoir rencontré.
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une organisation. Il y a aussi une ville de Palmyre où des gens vivent.
C'est plutôt un village, hein. Donc, ce qui est important à Palmyre, c'est vraiment le site de Palmyre. Et alentour, oui, il y a une bourgade, un gros village, qui est essentiellement consiste à accueillir les touristes qui viennent sur place. Mais généralement, pourquoi est-ce que j'étais seul? C'est probablement que je suis arrivé entre deux groupes. Quoi. Je veux dire, généralement, c'est très organisé ce genre de déplacement parce que c'est comme ça que les gens voyagent aujourd'hui. Quoi.
Et on peut se poser plein de questions parce qu'on est quand même dans un désert. Les constructions qu'on voit là, la fameuse colonnade et puis ces tétrapylônes sont assez imposants. Il y a des temples aussi qui sont constitués de gros blocs de pierre. On n'est pas aussi gros et aussi imposant que dans les sites égyptiens des pyramides. Mais quand même, on a de très très gros blocs. Là, on navigue dans une autre de vos panneaux photographies, ouais. Et il y a des blocs gigantesques.
Oui, là, pour s'y rendre, je propose en haut à gauche de l'image, il y a un compas. En cliquant dessus, en fait, on tombe sur la carte du site. Et sur la carte du site, là, il y a plein de points jaunes parce que j'ai beaucoup travaillé sur place. Mais si on va tout en bas à droite, en cliquant, on arrive dans la zone du temple de Bel. Et le temple de Bel est un monument gigantesque dont je ne crois pas qu'on sache exactement le rôle à l'époque. Mais il est absolument spectaculaire. Et si on en sort, on va tomber sur des frises qui, effectivement, sont un témoignage exceptionnel de la rencontre et du rôle de Palmyre. Par exemple, ici, je suis devant une frise qui montre un chameau, mais taillé dans la pierre à la gréco-romaine. Et là, on rencontre donc des thèmes locaux sur des techniques qui viennent d'ailleurs et importées de l'Empire romain. Donc, tout se mélange, tout se mêle, et on comprend qu'on est à la fois dans un lieu unique, mais aussi universel, puisqu'il dépasse largement la frontière du lieu.
Alors, puisqu'on parlait de carnage architectural et puisque vous parlez de représentation, tout n'a pas été détruit parce que, tout simplement, ça coûte trop cher de tout détruire à Palmyre. Et c'est la représentation de certains motifs qui
a été
la cible.
Oui, donc l'islam radical ne permet pas la représentation humaine. Donc, en fait, Daesh, je pense, en tape complètement Palmyre ou pas Palmyre. Pour eux, c'est la représentation humaine ne correspond pas à ce que le Coran permet. Et du coup, ils détruisent ce qui représente l'humain. Ils ne vont pas commencer à détruire toutes les colonnades, etc. Ça va leur coûter énormément en explosifs, etc., dont ils ont besoin pour d'autres situations, quoi.
Si vous le permettez, Tito, on va reprendre la route parce que votre périple en Syrie a continué. Vous êtes reparti vers l'ouest cette fois, légèrement vers le nord, et la ville d'Alep, dont on a beaucoup, beaucoup entendu parler dernièrement. Ce sera la suite de Globe Rocker, juste après Dan, Friend.
La première,
11h midi,
Globe Crocker avec Benjamin Leupart.
Et avec Tito Dupré, qui est notre guide ce matin, notre Globe Crocker, pour parcourir la Syrie telle qu'il l'a vue en 2006 et telle qu'il l'a recensée à travers différents sites, de Bosra à Damas, en passant par Palmyre, où nous étions pour l'instant. Nous avions déjà traversé le désert, et bien on le retraverse dans l'autre sens cette fois pour nous diriger vers Alep. La ville d'Alep qui est donc au nord ouest de la Syrie. Vous l'avez vu dans quel état Alep dont on parle aujourd'hui ?
Dans un état idéal, c'était une ville bruyante de souks, d'épices, de cuisine merveilleuse. Je me souviens d'un petit hôtel où j'étais, qui était l'hôtel où les archéologues débarquent et travaillent. Et donc, il suffit de rencontrer le patron à la réception pour qu'il vous raconte des histoires vieilles de 4 décennies et de recherches aux alentours. C'est incompréhensible ce qui se passe aujourd'hui là.
Vous dites qu'il y a une vraie différence dans le fonctionnement des gens. Lorsqu'on s'est rencontrés pour préparer ces Globe Crocker, puisque c'est la deuxième fois qu'on parcourt un petit bout de votre grand périple de 8 ans à travers le monde, vous disiez, chez nous les Occidentaux, ce qui semble compter c'est l'individu. Il y a un individu et un autre individu. Là-bas, ce que vous avez rencontré, c'est tous les efforts nécessaires pour eux, en tout cas, pour mettre en avant l'énergie qu'il y a entre deux individus. C'est moins les individus que ce qui se passe entre eux qui compte.
Oui, c'est la relation. C'est ce que nous, on appelle avec mépris les salam alek. C'est très, très, très fort. C'est-à-dire que toute l'existence de l'individu passe dans la relation qu'il a avec un autre individu ou bien avec sa communauté. Enfin, c'est mon interprétation, évidemment. Alors que nous, on est dans le culte de l'épanouissement de l'individu, qui généralement se traduit avec beaucoup de matériel et pas, du coup, avec cet intangible qu'est la relation, qu'est l'énergie entre les individus. Et donc, nous nous séparons, nous nous divisons, nous avons chacun notre frigo, mais en attendant, il y a un vrai problème relationnel. Et je crois que le conflit civilisationnel dont on parle parfois existe à travers cette nuance entre le culte de l'individu, aujourd'hui je pense qu'on peut parler d'un culte, et sur place le culte de la relation. Et donc c'est pour ça que, me semble-t-il, on s'appelle frère, sœur, cousin très rapidement, parce qu'en fait c'est plutôt dans cette familiarité qu'on entre plutôt que dans cette possession de soi.
C'était très bien. On a bien compris que c'était ce qui se passait entre les individus qui primaient sur les individus eux-mêmes. Vous arrivez à Alep, c'est un des sites à recenser pour l'UNESCO ?
Oui, parce qu'il y a là d'abord la vieille ville, dont l'architecture et les petites rues, tout est pavé, les pierres, les décorations. Je pense que c'est Omeyyade, ma mémoire me fait peut-être défaut, mais c'est Omeyyade. Et surtout, il y a un fort qui est en hauteur et qui, lui, est vraiment très très impressionnant. Au pied de ce fort, je me souviens d'un hammam où j'ai rencontré le tenancier assez longuement. Et puis surtout, il y a aussi une mosquée un peu plus au nord dont aujourd'hui le minaret est tombé et qui est un chef-d'œuvre de l'architecture islamique. Donc dans ce sens, il y a ces images que je propose là sur le site, sur qq.be, c'est tout ça a disparu, ça c'est sûr.
Ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit bien le recouvrement des différentes civilisations, le croisement de celles-ci. Par exemple, il y a le crack.
Ben oui, le crack des chevaliers un peu plus au nord. Là, on se rapproche, on est au nord du Liban. Il y a deux châteaux, un qui est le crack des chevaliers et l'autre le château de Saladin, et qui sont en fait des châteaux médiévaux et qui sont les lieux des croisés, nos fameux Godefroy Bouillon et autres.
Ils sont passés par là.
Voilà. Et quand on est soi-même petit belge à débarquer et qu'on lit dans l'histoire du lieu que Godefroy Bouillon est passé par là, ça fait bizarre quand même. Hein. Et on se dit, voilà, tout est lié depuis en fait super longtemps, quoi.
C'est Saladin qui va les déloger.
Oui, et du coup, il a sa tombe à Damas.
D'où on vient.
D'où on arrive, et la boucle est bouclée, effectivement, et qui fait d'ailleurs un pays. C'est pas pour rien que la Syrie est la Syrie, j'imagine, parce que si on regarde et si on fait le tour du pays soi-même, pas à pas, petit à petit, on entre dans ce pays et on comprend les liens d'un lieu à l'autre. Bosra, sud de Damas, c'est pas loin. Damas est tout près de Beyrouth, je crois qu'il y a seulement 100 km, alors qu'il y a plus de distance par rapport à Palmyre. Et donc, on commence à comprendre à la fois ce qui unit et à ne pas comprendre ce qui désunit.
Ce voyage touche à sa fin pour vous, Tito, en 2006. Vous allez repartir vers le Liban et puis bien d'autres destinations encore. Vous allez partir en Chine, vous allez rencontrer votre future épouse. Mmh. J'ai envie qu'on se remette dans les oreilles la chanson que vous chantiez, qui, c'est pas boucler la boucle, mais qui ponctue l'expérience. Ça s'appelle « Face à la mer », c'est donc toujours ce piano-voix qu'on a entendu au début de Globe Crocker. Et c'est votre voix qui a un petit côté Dominique A.
S'installe lentement à sa table, les pieds nus bien enfoncés dans le sable. Il installe sa rame de feuilles blanches en coin sûr, période droit de cette planche. C'est instable de s'établir sur la plage, mémorable de s'offrir ainsi au large. Il écoule, s'abandonne en vague à l'âme et recoule l'écume de lames en vague.
Sans doute que vous reviendrez, Tito Dupré, dans Globe Crocker, pour par exemple nous raconter les 23 provinces de Chine que vous avez parcourues à un rythme qui vous a permis par exemple d'apprendre la langue.
Oula, sous la torture.
on le fera en français si vous voulez bien.
Oui.
Merci en tout cas pour ce voyage. Il y en aura d'autres bientôt.
Ah ben je m'y emploie, j'aimerais, j'espère. Mais moi je ne suis pas maître de ce travail, j'en suis l'ouvrier, c'est tout. Donc.
Et puis comme vous disiez, vous êtes un voyageur dans l'âme, pas besoin de parcourir des milliers de kilomètres, c'est l'état d'esprit maintenant qui vous
tout à fait, qui vous
emporte. Merci en tout cas d'avoir partagé ça avec nous. Bon vent, bonne suite.
Merci beaucoup.
Bon archivage de lieux pour l'UNESCO. Un tout petit mot peut-être sur cette idée que vous avez géniale de voter pour les merveilles du monde, 77 merveilles du monde plutôt que 1000.
Oui, alors voilà, il y a 1000 sites sur la liste du patrimoine mondial. Il y avait 7 merveilles du monde, mais c'est autour de la Méditerranée. Donc je propose aujourd'hui aux internautes de voter pour 77 merveilles du monde et puis de le faire avec le cœur, avec l'esthétique, pas pour des raisons nationalistes.
Merci à vous. J'espère que ça portera ses fruits. En tout cas, le message est lancé. Quant à nous, on repart demain mercredi pour un autre chemin, une autre démarche, celle d'une globe croqueuse, Patricia Gérimont, qui part à Bamako et aussi en pays Dogon à la rencontre des teinturières qu'elle a rencontrées en voyage. Demain, dame de couleur au Mali, dans Globe Croqueur. Dans un instant, on s'informe. Puis ce sera Fabrice Lambert pour le Forum de Midi. À demain, que vous soyez ici ou ailleurs.
Toute l'équipe de la première
vous souhaite 2017 raisons d'être curieux.
Bonne année.